Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Les histoires d'amour, contrairement aux apparences, ne se vivent pas seulement à deux. Quelquefois, en effet, d'autres personnes s'en mêlent, les amis, les parents, les enfants d'un premier mariage, voire les ex. Et c'est ce que va découvrir à ses dépens la jeune héroïne de notre invitée, qui est en couple avec un homme plus âgé et qui sera contactée par l'ancienne épouse de celui-ci. Bonjour Christina Comencini.
Bonjour à vous.
Cinéaste et écrivaine italienne qui nous fait l'honneur de parler en français, vous signez donc ce roman qui paraît aux éditions Stock dans une traduction de Béatrice Robert-Boissier sous le titre « L'autre femme » et qui interroge donc la question de la vérité qui n'est jamais unique mais multiple quand on parle d'amour. Mais pour commencer, qui est vraiment l'autre femme, celle qui succède à l'épouse délaissée ou celle qui a construit toute sa vie et fait des enfants avec l'homme dont elle est séparée?
Je pense que l'autre femme, c'est l'autre femme que chaque femme a dedans. C'est-à-dire qu'on est hanté par une autre femme qui est mieux que nous, qui est plus jeune ou qui a plus d'expérience ou qui est plus belle ou qui a plus de succès ou qui travaille mieux. C'est-à-dire que les femmes... avec disons, dans la société où on vit et dans l'histoire aussi, on construit des univers d'imagination sur l'autre femme, qui est évidemment au centre, il y a l'homme surtout, qui sont des choses qui nous hantent. La rivalité entre femmes, c'est l'un des thèmes, non, de la culture, des récits, de l'opéra, des romans. Et moi, je pense donc que c'est plutôt une image symbolique qui nous hante. On n'est pas comme on devrait parce qu'il y a toujours une femme qui est mieux que nous. Alors disons que l'épouse de Pietro, qui a été l'épouse, ils se sont séparés, ils ont eu des enfants, rentre en contact avec la plus jeune et avec un arnaque, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas qui elle est.
Non, elle utilise un pseudonyme. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, Christina Comencini, Maria, à en savoir plus sur Elena? Est-ce que c'est vraiment... la jalousie ou la rivalité que vous évoquiez à l'instant, ou c'est aussi peut-être la nostalgie de son propre couple qui n'existe plus?
Moi, je pense que c'est un désir de liberté. C'est-à-dire de se libérer de cette femme imaginative et de cette rivale. C'est-à-dire qu'elle veut être libre. Elle s'est séparée de son mari, qui est un mariage qui est raconté dans le livre, un très beau mariage, qui à un certain moment a dégringolé, et chacun des deux, même l'homme, racontera pourquoi, comme il le voit. Mais en même temps, c'est une histoire qui est finie. Elle veut se libérer, elle veut le porter avec elle, parce que le livre dit aussi ça, qu'on est à plusieurs dans des relations parce qu'on emmène le passé. Soit le passé de notre famille d'origine, que le passé de nos ex aussi. Mais elle veut se libérer, elle ne veut plus être hantée par elle.
Vous auriez pu faire ça, vous, Christina Comencini, écrire à votre rivale?
Non, pas dans ce sens. Peut-être que je n'aurais pas eu l'idée de faire ça, mais de la connaître et de pouvoir se parler, oui, pourquoi pas.
En tout cas... par cette relation inattendue entre ces deux femmes qui dynamite un peu le traditionnel triangle amoureux, vous faites le portrait, Christina Comencini, en creux de ces deux femmes, mais surtout de deux générations. Alors commençons par Elena, peut-être, qui est la plus jeune, qui est dans la vie active, qui a eu une histoire familiale compliquée, nous y reviendrons aussi dans un instant, et qui déclare très tôt dans le roman, ouvrez les guillemets, « Je ne suis pas féministe. Pour ma génération, ce mot est presque une insulte. Nous avons rétabli un lien avec les hommes que la génération de ma mère, qui était aussi celle de Maria, avait réduit à néant. » Fermez les guillemets. Est-ce que vous voulez bien nous commenter cette déclaration, Christina Comencini, d'une jeune Italienne qui refuse le féminisme?
Ben, je pense que c'est assez diffus, ça. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Les romancières ne disent pas ce qui est bien ou mal, ils racontent. Je pense que d'un côté, je suis avec elle, mais je suis avec elle dans le sens que c'est vrai, elles ont dû reconstituer un rapport qui avait été mis en crise par les féministes des années 70, à la fin des années 70, années 70. Et donc, sur ça, je comprends ce qu'elle a eu comme problème. En même temps, elle ne se rend pas compte qu'elle a utilisé des droits et de la liberté qui a été conquise. Et l'autre lui dira ça. Elle lui dira, bon, alors, puisque tu es si forte et tu as fait tout ça, pourquoi tu souffres encore pour un homme? Donc, c'est les deux qui se renvoient comme l'un à l'autre, comme en jouant au tennis. Et l'idée, c'est que cette reconstitution de 1000 voix, de voix de générations différentes, qui fait un peu l'état des lieux de la relation et de la relation entre les gens, pas seulement hommes-femmes, mais entre les générations. Et les deux ont une partie de, disent une partie de vérité. Et la jeune fille, parce qu'elle pense, je suis avec cet homme, je bois le cocktail, je suis libre, je ne vais pas faire d'enfant. Et puis elle se rend compte, quand elle rentre en contact avec l'autre, qui a été une histoire très compliquée, parce que les enfants ont tout compliqué, mais il y a été une histoire d'une richesse énorme. Elle dit, mais peut-être moi, je ne veux pas faire ça. Peut-être que moi, je voudrais un enfant aussi. Donc c'est notre expérience en tant que société de ces rapports qui deviennent compliqués et un peu évanescent, un peu pas durable, mais qui sont très intéressants quand même.
Oui, parce qu'au discours d'Elena, évidemment, on se renvoie l'expérience de Maria, qui est d'un autre âge, d'une autre génération, qui elle aussi, quand elle était jeune, était totalement libre avec son mari, et puis les enfants sont arrivés. Comme vous dites, c'est une place dans une vie de femme, surtout quand l'homme est très actif. Elle-même, elle a eu du mal à réaliser sa carrière d'artiste. Et on voit que ça a joué aussi peut-être dans le délitement du mariage. Donc c'est une façon de dire à la jeune Elena, attention, ne crie pas encore si haut et fort que tu n'es pas féministe. Peut-être que tu verras, tu auras besoin aussi de te battre, toi, pour avoir ta place dans le couple et dans la société.
Je pense, oui. Et puis, à un certain moment, le mot féministe, pendant des années, a été comme une insulte. Et je pense que, je pense que c'est une chose, c'est un nom très, très important. Et peut-être qu'on doit le changer. Peut-être qu'aujourd'hui, on devrait parler d'une autre façon. Mais à l'époque, c'était très important. Et je pense qu'on en est toujours là. C'est-à-dire que le changement de rapport entre les hommes et les femmes dans la société, c'était la plus grande révolution qu'on est en train de vivre encore. Sauf qu'elle n'est pas facile. Parce que de toute façon, il y a les enfants, il y a les carrières, il y a le fait que ça occupe le couple, il y a le fait qu'on n'a pas encore changé complètement la relation. Elle est encore en moderne, mais antique aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent très lentement. Et donc, je pense que elle a raison de lui dire ça. Mais l'autre jeune lui dit une chose très importante aussi. Elle lui dit, je pense qu'il faut rester un peu jeune dans les couples. Elle lui dit ça, et Pietro lui dira aussi. C'est-à-dire, il lui dit peut-être que c'est quelque chose qu'il faut conquérir. La liberté, le livre est autour de ce concept. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Se sentir libre, mais avec des relations aussi. Pas libre, mais seul. Libre, mais d'être avec les autres d'une façon différente. Voilà.
C'est tout l'enjeu, en effet. Et donc, Elena va se livrer de plus en plus à son amie virtuelle, avant de faire sa connaissance. Et elle va lui faire des confidences qu'elle n'a jamais faites à personne, en tout cas même pas à Pietro, l'homme qu'elle aime. Et elle va lui révéler un secret de famille. Alors, je ne sais pas, Christina Comencini, si vous voulez qu'on garde ou pas ce secret secret et garder la surprise pour les futurs lecteurs.
Mais je ne sais pas, moi je pense que l'idée d'un roman, ce n'est pas seulement les idées, c'est comment on les traite. Et je pense que dans ce cas-là, on peut dire qu'elle a une difficulté parce que son père, c'était un père bisexuel. Donc elle a eu ce problème, surtout qu'elle l'a découvert toute seule parce que lui, il n'a jamais dit ça. Donc ça a posé un problème par rapport à sa mère, surtout au père, parce qu'elle a compris qu'il y avait quelqu'un. Elle ne se sentait pas acceptée en tant que jeune femme. Elle a senti qu'elle ne voulait pas devenir comme sa mère, c'est-à-dire devenir un peu une épouse-mère. Et l'érotisme et la sexualité étaient hors de la. Donc ça pose un problème aussi par rapport à Elena et par exemple au fait qu'elle ne veut jamais être féminine totalement. Et ça, c'est une chose qui est très d'aujourd'hui. C'est-à-dire, elle veut être forte, elle veut être musclée, elle veut comme réagir à l'attitude maternelle de sa mère par rapport à son père.
Donc, on se construit aussi toujours en relation avec ses propres parents et en l'occurrence, en écho à l'histoire familiale.
Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est jamais deux aussi dans un couple. On est beaucoup plus parce que des fois, on pense qu'on fait des choses par réaction et puis on se découvre, on se dit « mais je suis en train de parler comme ma mère ». Je dis des mêmes choses que je critiquais. Et donc, c'est comme si l'idée du roman, peut-être l'idée qui amalgame un peu l'idée, le sentiment, c'est qu'on ne peut pas effacer le passé. Mais pour aller à l'avant, il faut l'assumer et le transformer. Parce qu'il faut qu'il soit là, mais en même temps, il faut aller à l'avant pour pouvoir changer. La contradiction, l'ambivalence du roman, c'est ça. C'est entre la liberté et la relation, entre le changement et ce qui nous pèse encore ou qu'on aime encore. Il faut raconter, il ne faut pas juger.
Est-ce qu'on raconte ce dont on est témoin, Christina Comencini, ou ce qu'on connaît?
On raconte ce qu'on sent et on a connu, dans le sens qu'on l'a connu pas seulement dans sa propre vie, mais dans la vie des gens qu'on a connus. Moi, je suis une grande observatrice. Je me fais raconter tout de suite. Si on est là, on reste encore un peu là, je vais vous demander de vous. C'est-à-dire que je commence à écouter les gens et je sens qu'il y a toujours des histoires incroyables. Donc je les note pas dans un cahier, mais quand je écris, tout ça, ça me revient. Alors c'est une espèce de mixer mes sentiments, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pensé, ce que j'ai pas fait, mais j'aurais voulu faire aussi, avec toutes ces expériences multiformes que j'écoute.
Les parents d'Elena se sont connus et aimés sur un tango. Elena, elle écoute Coldplay, Radiohead, Les Who. Et vous, Christina Comencini, vous aimez quelle musique?
Moi, j'aime beaucoup la musique classique, mais dans le créneau que vous avez dit, je suis encore de... J'aime beaucoup les Rolling Stones, j'aime beaucoup cette musique-là, Lou Reed et tout ça. Même si, et c'est une partie de mon prochain livre qui sort en Italie, j'ai connu et je vois et j'ai lu beaucoup de la contradiction qu'il y avait dans ce monde qui se retenait très libre, sexuellement libre. Il y avait déjà dedans des choses inouïes. Mais en même temps, la musique est merveilleuse et je l'écoute encore et je l'aime beaucoup.
Un titre en particulier que vous aimeriez qu'on diffuse maintenant ensemble?
Une chanson des Rolling Stones et Ruby Tuesday.
C'est parti.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine et cinéaste italienne Christina Comencini à l'occasion de la traduction en français par Béatrice Robert-Boissier de ce 10e roman paru sous le titre L'autre femme aux éditions Stock. On l'a dit précédemment, une fiction sur les variations amoureuses et le regard des autres sur un couple avec ici ce dialogue impromptu entre Elena et Maria, nouvelle et ancienne femme de Pietro, sans oublier le rôle important joué par l'un des enfants, né du premier mariage, Francesco, auquel s'ajoute le monologue d'une amie, Rita, autant de versions qu'il y a de vérité. Et finalement, celui qu'on entend le moins peut-être, c'est Pietro, cet homme aimé de toutes et tous. C'est à la toute fin qu'il s'exprime et raconte l'histoire de son point de vue. Qu'est-ce que cette partie du roman dit de votre personnage, Christina Comencini, que ce n'est pas le stéréotype de l'homme de 50 ans qui cède au démon de midi et qui quitte sa femme pour une plus jeune?
Je pense que Pietro dit le monologue de Pietro qui s'explique, moi, je l'aime beaucoup. C'est peut-être une des parties du livre que j'aime le plus, parce qu'il est authentique. C'est-à-dire qu'il dit tous ses défauts. Et il dit aussi cette recherche de la jeunesse. Mais il dit des choses, quand il raconte comment ils se sont connus, il est tellement vrai. Et en même temps, il dit aussi une chose que je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que lui, il voulait que sa femme ne reste pas jeune dans le physique, mais reste jeune un peu dans l'âme avec lui, et lui aussi avec elle. Alors il dit, je ne sais pas si j'aurais évité d'aller avec des plus jeunes. Il dit la vérité, mais il dit qu'il a recherché ça, qu'elle, de temps en temps, elle soit encore un peu comme quand ils étaient connus, que rien n'était encore programmé. Il faut un peu comme mixer. Il aurait voulu cette légèreté. Voilà.
Qu'elle improvisait tout.
Un petit, oui, au début, elle. Et lui,
ne rangeait
rien. Aussi, oui, un peu comme ça. Et je pense que il est très sincère. Il dit son état des lieux en tant qu'homme dans le livre. Et ça, c'est important. Et c'est important de le connaître. Après, moi, je ne le juge pas. Je l'aime beaucoup. J'aime tous mes personnages. Et lui, je l'aime beaucoup parce qu'il est vrai. Il est très, très vrai.
Ça, c'est une parole que vous avez recueillie, par exemple, Christina Comencini ?
Ben, je connais un tas d'hommes qui sont un peu comme ça. J'ai des amis qui lui ressemblent un peu, oui.
Il y a quelque chose d'un peu triste quand même à constater que le temps passe et l'amour le plus fort ne résiste pas.
Et ça, c'est le problème de notre époque. Oui, je pense que c'est un des problèmes de notre époque. C'est-à-dire que c'est très difficile parce que nous, on veut s'aimer toute la vie. Avant, les couples, ils ne s'aimaient pas toute la vie. C'est pour ça qu'ils restaient ensemble toute la vie. Nous, on veut ça. C'est une espèce de grand... on est des grands romantiques, en réalité. Sous l'apparence comme ça de gens un peu cyniques, on est romantiques. Donc, on veut une chose qui est très difficile. En même temps, je pense que ça peut arriver et qu'on essaye. J'ai dit ça à mes enfants. J'ai beaucoup d'enfants qui sont grands maintenant. Et ils ont réessayé aussi, c'est-à-dire, on essaie de réussir. Mais c'est un équilibre plus compliqué, parce qu'on essaie de s'aimer, parce que les femmes sont libres. Et donc, il n'y a plus quelqu'un qui reste à la maison. Et donc, ça, c'est plus compliqué. Mais en même temps, c'est tellement plus intéressant. Cette fragilité, cette difficulté est beaucoup, beaucoup plus passionnante.
Quand vous dites « j'ai beaucoup d'enfants », c'est-à-dire ?
Moi, j'ai 3 enfants que j'ai faits et une 4e que j'ai élevée. Donc, j'ai élevé 4 enfants. Voilà. Donc, le rapport entre les enfants. Et j'ai commencé très tôt parce que mon premier enfant, je l'ai fait à 18 ans. Donc, toute ma vie a été avec les enfants. C'est maintenant seulement que je n'ai plus d'enfants à la maison. Et donc, je suis très contente maintenant d'expérimenter cette chose de liberté sans enfants. Mais les enfants étaient pour moi une source d'énormes réflexions. Réflexions sur la vie et sur la féminité, sur l'amour, sur la fatigue, sur le travail. Et j'ai écrit beaucoup de choses que j'ai connues à travers eux.
Pour revenir à votre roman, Christina Comencini, de toute évidence, la communication est parfois difficile dans les couples, même quand ils s'aiment, parce qu'on ne peut pas forcément se dire en face réellement ce qu'on éprouve. Et d'ailleurs, ici, le fils d'Elena et de Pietro, Francesco, dit, je trouve ça très beau, de ses parents, qu'ils se parlaient à travers les livres, à distance, sans savoir que l'un et l'autre soulignaient des phrases qui exprimaient le fond de leur pensée. Est-ce que vous aussi, vous écrivez pour parler à distance à vos proches ?
Non, à mes proches, non. Surtout aux lecteurs inconnus. Parce que les proches, ils se reconnaissent toujours dans quelques personnages. Et ça donne toujours des problèmes, les proches. C'est-à-dire qu'ils te disent « Ah, mais ça me ressemble, pourquoi t'as mis comme ça ?» Non, je blague. Ils me lisent quand même des fois mes livres. Mais c'est plutôt sur l'inconnu. C'est un dialogue avec un lecteur inconnu qui tourne la page quand moi je la tourne quand j'écris. Parce que c'est le même rythme. Moi, j'écris page par page et je ne sais pas où je vais. Et le lecteur, quand il lit, il ne sait pas où va le livre. Et c'est cette aventure avec quelqu'un qui est inconnu, que de temps en temps, je rencontre aux présentations. Et aux présentations, c'est très bien parce qu'ils me disent des choses que moi, je ne voyais pas. Et je découvre le livre. Donc, c'est ça. C'est cette espèce de lien qui est très, très fort. J'aime beaucoup.
Mais pour reformuler ma question, ce n'était pas seulement parler par l'écriture des autres, mais parler aux autres. En tout cas, leur faire passer par l'écriture et la littérature des choses, des sentiments que vous ne pouvez pas forcément leur dire en face. Ah, comme dire à ses enfants, je t'aime et on ne le dit pas, mais peut-être qu'on l'écrit.
Disons qu'en Italie, on le dit, je t'aime. C'est plutôt les Français qui ne le disent pas. Parce que les Italiens sont beaucoup plus extraversés sur les sentiments. Ils embrassent beaucoup plus, ils disent. Mais à part ça, c'est vrai, on ne le dit pas. Je pense que toute ma littérature est quelque chose qui a à voir avec le dévoilement. Donc c'est de raconter des choses que normalement, ça ne sort pas. Que c'est enfoui dedans. Et tous mes livres sont un peu comme ça. Parce que moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Quand je dirige un acteur, je lui dis tout le temps, là, c'est les lignes que j'ai écrites, mais je ne veux pas savoir ça. Pense à autre chose. Parce que quand on parle, et même maintenant, peut-être, je ne sais pas, on pense à autre chose aussi. Je pense aux gens qui passent derrière, et je parle en même temps que je parle. Et dans le livre, on peut dire tout ça. Et donc, c'est comme des strates qu'on peut raconter, c'est très intéressant.
Puisque vous parlez de votre métier de cinéaste, c'est vrai qu'ici, par exemple, au détour d'une soirée, est évoqué le film « Rocco et ses frères »
de Visconti.
Je me demandais pourquoi celui-ci et pas un film de votre père, Luigi Comencini. Est-ce que c'est par pudeur, peut-être ?
Non, je ne l'aurais pas cité vraiment, oui, un peu par pudeur, mais si c'était nécessaire, je pourrais le citer parce que j'ai une admiration énorme pour lui. Mais dans ce cas-là, c'était parce qu'ils avaient tourné ce film, ils croient. Ce n'est pas vrai vraiment parce que c'est une autre périphérie, mais dans cette périphérie de Milan qui a été désastrée par écologiquement et qu'on doit remettre en place parce qu'il y a eu sous le terrain, il y avait tous ces métaux qui étaient néfastes. Ouais. Donc, et puis parce qu'il y a l'homosexualité latente dans le film. C'est-à-dire qu'il y a, si vous le revoyez, tous ces corps d'hommes très fort, en sueur, il y a la mère qui pleure, la femme qui est méchante, il y a tout un monde qui est un monde physiquement très fort. Moi, j'aime beaucoup le film, hein. Mais c'est un monde très fort. Et là aussi, c'est quelque chose qui est caché, c'est-à-dire que ça raconte une histoire, mais derrière, on sent qu'il y a cet énorme désir. Et parce que la caméra aussi, quand elle fait voir des corps, c'est le désir qu'il y a derrière. Et donc, pour Elena, qui a cette situation familiale d'origine, elle se sent mal après ça, parce qu'elle sent qu'elle aussi, elle a vécu dans une famille où ça, la sexualité du père et celle que la mère n'a pas pu exprimer, ils se sont trouvés seulement dans le tango. Après, jamais plus, quelque part. Et donc, il sent que ce film, c'est aussi une menace à elle et à la vie qu'elle a vécue avec ses parents.
De la même façon qu'elle est aussi un moment de sa vie où elle va éprouver du désir pour un autre corps. Et c'est peut-être aussi ce qu'annonce cette séquence.
Oui, ah oui, absolument. Oui.
Souvenez-vous.
Oui, on peut pas le dire. Ça, c'est un coup de théâtre qu'il faut.
Ça, on ne le dit pas.
Ça,
absolument.
On le dit pas. Et oui. Bon, oui, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'elle ne le sait pas, c'est l'inconscient. C'est-à-dire qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va se passer.
Toujours est-il que vous auriez donc pu citer aussi, si ça avait été approprié, un film de votre père, Luigi Comencini. J'imagine que c'est lui qui vous a donné envie de devenir cinéaste à votre tour, parce que je le rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que vous avez réalisé et pour la plupart écrit le scénario d'une quinzaine de films, ce qui est un peu plus même d'ailleurs que votre littérature d'une certaine façon.
Non, en réalité, c'est le même, parce que dans l'énumération des films, on met des choses qui ne sont pas des films souvent. Mais en vérité, je pense que c'est 11 à 12, c'est pratiquement les mêmes choses. Mais mon père, il m'a complètement découragé de faire du cinéma, si au contraire.
Je n'ai pas dit qu'il vous avait encouragé, j'ai dit que c'était sans doute de lui qu'était venue votre envie.
Oui, quelque part non, parce que quand j'étais étudiante, je faisais des études d'économie et de mathématiques, donc j'essayais de ne rien faire par rapport au cinéma. Quand à un certain moment, j'ai laissé l'économie, j'ai fini mon truc, j'ai travaillé un peu, puis j'en pouvais plus, et j'ai commencé à écrire des romans. C'est pour me différencier, je ne voulais pas. Et puis, incroyable, le cinéma que j'ai sorti par la porte est rentré par la fenêtre, ouais. Parce qu'on m'a demandé de mettre en scène un récit pour enfants que j'avais fait. Et donc, ça a commencé. Mais en vérité, j'avais très peur, mais c'est normal. Parce que lui, c'était un très grand metteur en scène. J'ai écrit avec lui aussi. Donc, il y avait aussi une grande empathie, même si mon père était un gros morceau. C'est-à-dire qu'il était très sévère et très demandeur, très, très fixé sur la culture. Donc, c'était un père dans la façon ancienne, disons, très, très fort.
Et qui est-ce qui vous a donné le goût d'écrire alors, Christina Comencini ?
De moi-même. C'est sorti et puis j'ai fait cette rencontre énorme avec Natalia Ginzburg qui m'a fait publier le premier livre. Donc, disons, c'est elle qui m'a donné confiance que je pouvais écrire. Mais quand j'étais très jeune, déjà, j'adorais la littérature. Je lisais mon roman de livres. Mais on n'a pas l'idée, on commence. Et après, on espère qu'on réussira à faire un livre, voilà. Et maintenant, je sais que En réalité, si je me mets devant l'ordinateur maintenant et je pense à une histoire, peut-être que je réussirai à la faire. Mais chaque fois, on ne sait pas.
Mais à quel moment vous savez que ça peut être une idée de film ou une idée de roman ?
C'est complètement différent. C'est deux choses complètement différentes.
Mais,
le livre...
Mais quand est-ce que vous le savez, ça ? Dès que vous commencez d'écrire ?
Au début, parce que le livre, il ne sait pas où il va.
Ah.
Le livre, c'est le livre qui emmène. On a des personnages, on a des atmosphères, on a des thèmes. Après, c'est le livre qui se fait jour par jour. C'est pour ça que je dis que je suis comme le lecteur. C'est-à-dire qu'il se fait jour par jour. Le cinéma, non, il commence par un sujet, peut-être même un sujet écrit avec d'autres personnes, et puis devient tout de suite collectif, hein, dans la grande majorité des cas. Donc, on écrit avec d'autres. On a un début, une fin. Après, les mots se changent en images, donc c'est compliqué. Mais le livre, au contraire, il ne sait pas, c'est un bateau ivre.
Vous parliez de liberté au début de cet entretien à Christina Comencini, et en effet, il me semble bien que tout ce qui rassemble vos personnages, c'est ce sentiment de libération, où chacun, chacune se libère du passé, du cordon ombilical, des préjugés, d'un poids familial, d'une culpabilité. Il y a ce sentiment de se réapproprier cette liberté. À notre époque, aujourd'hui, c'est quoi être libre, Christina Comencini ?
Ça, c'est très intéressant, cette question, parce que la liberté totale, elle ne nous libère pas. Et la liberté avec des limites, et je dis ça dans un pays où la liberté a un concept assez important, disons.
En Italie, vous voulez dire ?
Non, en France.
Ah, d'accord.
Eh ben, c'est écrit liberté, c'est le premier mot.
Et absolument, bon. Liberté, égalité, fraternité.
Donc, je pense qu'on est dans une société où il y a une liberté presque, comment dire, apparente un peu. C'est-à-dire que je pense, moi, on est des jeux. Et dans ce sens, on pense que c'est une liberté. Tandis que la liberté, c'est aussi être des nous. Et là, ça manque un peu. Et donc, être libre dans le sens d'avoir autour de nous des gens avec qui on est lié. Et parce que la liberté sans relation, c'est une solitude. C'est une individualité. Voilà. Et c'est ça, je pense, qui est en train de... Et je pense que c'est la chose que tout le monde en voudrait plus, c'est-à-dire la sensation que quand même on a des liens qui sont importants, qui peut-être nous limitent aussi. Ils nous limitent aussi dans la liberté. Mais c'est une liberté humaine.
Vous l'avez trouvée, la liberté ?
Non, je cherche. Je la cherche tout le temps. Et chaque jour, je pense que je l'ai, et puis elle m'échappe. Parce que je suis, comme tout le monde, je suis hantée par des fantômes, des inquiétudes, des choses comme ça. Mais en même temps, la liberté, vraiment, c'est une chose qui se fabrique un peu au fil de la vie. Un peu au fil de la vie. Parce que, par exemple, la liberté, elle entre en contact avec la fragilité des corps, avec le vieillissement, avec la mort. Et tout ça, c'est quand même une liberté. C'est-à-dire de pouvoir penser à des limites et à une finitude. La liberté sans finitude, c'est une liberté qui n'existe pas. Et donc, c'est en construction toujours.
En construction aussi par l'art, que ce soit la littérature ou le cinéma, j'imagine.
Ah, ça, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que la littérature et la création des mots ou des images qui puissent créer un monde qui n'existe pas, mais qui se réfère au monde réel. Et ça donne une énorme sensation de libération.
Merci beaucoup, Christina Comencini.
Merci à vous, merci.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, L'autre femme, qui a paru aux éditions Stock, dans une traduction de l'italien par Béatrice Robert Boissier.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.